Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Alors aujourd'hui, eh bien je vous propose une chronique en tandem pour vous présenter et vous parler de notre roman du jour. Nous allons quitter les sentiers battus pour nous aventurer dans les chemins de l'imaginaire. Notre lecture du jour m'a été proposée par un de mes amis et il est avec moi pour votre plus grand bonheur aujourd'hui au micro de la librairie des étudiants. Bonjour Thomas.
Bonjour Thomas.
Merci d'être venu aujourd'hui à ce micro pour que nous puissions parler ensemble de ce roman.
Avec plaisir, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité.
Donc, on va parler de modernité.
Oui, de modernité, d'ancien temps, d'évolution, de beaucoup de choses.
Ah bah tiens, je vais te poser cette question, ou même plus largement à nos auditeurs. Est-ce que la modernité est-elle in fine la mort de l'ancien temps? Voilà, avec cette question, je souhaite qu'on ouvre aujourd'hui notre roman du jour pour vous inviter à vous évader dans un autre monde qui finalement n'est peut-être pas si loin du nôtre. Notre roman du jour, il s'intitule « L'homme qui parlait la langue des serpents » et il a été publié en 2007 aux éditions Le Tripode et il est signé par un auteur estonien, Andrus Kivirak. Remontez vos montres de quelques années, voire presque de quelques siècles, nous partons aujourd'hui dans les forêts reculées de l'Estonie. Alors, l'histoire commence lorsque nous sommes plongés directement dans les forêts reculées estoniennes. Limet est un jeune homme vivant au sein d'une de sa tribu qui est malheureusement en déclin. Les membres de cette tribu vivent sauvagement, entre les arbres, dans une micro-société où les générations se transmettent un savoir unique, la langue des serpents. À quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à parler avec les animaux, leur donner un ordre, contrôler même leurs émotions. Elle est principalement utilisée pour chasser. Un beau jour, Mémé donne à Limet une bague. Avec cette bague, le jeune homme voit un moyen de retrouver la salamandre. La salamandre, c'est un animal mythique qui a aidé les mêmes personnes de cette tribu lors des grandes guerres. Pour en appeler à son pouvoir de protection pour eux et de destruction sur les ennemis, il faut que des milliers de personnes, issues même parfois de la tribu, utilisent cette fameuse langue des serpents en sifflant. Son oncle Voutle lui apprend cette langue spéciale. Il lui apprend à la maîtriser et aussi à bien savoir la siffler. Mais avec cette bague, le jeune homme est déterminé à retrouver la salamandre endormie. Mais avant même de commencer un périple dans les forêts, l'inquiétude de Limet et de sa famille se niche dans le départ de plus en plus massif des membres de la tribu pour le village. Avec ces départs, la tribu perd ses membres, mais surtout, elle perd sa culture et donc la langue des serpents.
Thank you.
avec mon ami Thomas dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 au micro de la librairie des étudiants. C'est toi qui as choisi notre musique d'outro littéraire. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ?
Alors, je trouve que cette musique reflète très bien même la moitié du roman vis-à-vis du côté un petit peu lumineux, calme et envoûtant que va avoir la clairière pour le jeune Limette et ses amis et toutes les personnes vivant dans cette forêt. Et je trouvais que vraiment on ressent bien cette ambiance chaleureuse, un petit peu les trous de lumière dans la forêt, etc. Je trouve que c'est vraiment adapté.
Donc une suite numéro 1, Opéra 46 de Peer Gynt, oui, à retrouver bien sûr un peu partout, si possible chez un disquaire. C'est quand même plus sympa les disquaires. Et nous allons donc revenir à notre roman du jour, L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak, un auteur estonien, publié aux éditions Le Tripode en 2007. Tu m'en as parlé pendant la pause de cette fameuse salamandre, qui est l'objet, la quête de presque tout le monde, une idée omniprésente. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, cette fameuse salamandre ?
Alors, cette salamandre est en fait le moyen de défense des Estoniens, car en effet, on va le voir plus tard dans l'histoire, mais il y a, comme on l'a dit au préalable, un mouvement de migration des personnes vivant dans la forêt vers le village, où il y a donc pour eux des nouveautés, mais c'est-à-dire surtout le mode de vie occidental européen que nous connaissons nous, avec des chevaliers, des monastères, des paysans qui travaillent la terre, etc. Et au niveau, donc avant que ces personnes-là puissent s'installer, eh bien, il y a eu forcément une sorte de conquête. Et le moyen de défense des Estoniens était la salamandre, puisqu'à l'époque, ils étaient énormément, donc plus que plusieurs milliers pour pouvoir l'appeler. Et celle-ci venait à leur secours et venait terrasser les envahisseurs que nous étions.
Donc c'est une espèce de monstre qui ressemble à une salamandre, mais plutôt volante.
C'est une salamandre exactement volante, en fait.
C'est quand même assez dingue. Simplement. Mais en même temps, nous sommes partis pour l'imaginaire aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait peut-être s'aventurer aux côtés des personnages qui composent l'ensemble de ce texte ? On a donc la famille tête de Limette, on va commencer par eux, avec une mère qui, finalement, adore cuisiner.
Qui adore cuisiner, en effet.
Un vrai petit cordon bleu.
Ça me fait penser, tu sais, aux grand-mères.
Oui, voilà.
Qui cherchent à te bourrer tout le temps.
Absolument.
À manger le mieux possible et le plus de viande possible. Car, en effet, dans la forêt, ils mangent principalement de la viande.
Ouais, tout ce qui est élan, chevreuil. On est vraiment dans l'univers de la forêt. Des chasseurs, et qui utilisent donc cette fameuse langue des serpents.
Pour appeler les animaux, puisque un mot suffit à communiquer, mais aussi à leur demander de venir pour les tuer et pour ensuite pouvoir les manger en toute simplicité, sans chasse, sans souffrance.
Ouais.
Tous dociles, tous les animaux, enfin la majorité peuvent parler, sauf les insectes.
C'est vrai.
Qui n'entendent pas et qui ne comprennent pas la langue des serpents.
Ouais, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs sur cette fameuse langue des serpents et sur les animaux. Donc on parle de la mère de Limette, mais on a aussi sa sœur, Salmé, qui cherche à s'unir avec un ours. Alors là, vraiment, je vous dis, oubliez tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, nous partons vraiment dans l'imaginaire. S'unir avec un ours, mais au grand dam de sa mère.
Oui, sa mère qui, enfin, même je pense avant ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette histoire, les ours sont des grands charmeurs que les dames adorent. Et il y a eu un drame dans cette famille, c'est que la mère de Limette a eu comme amant un ours. Et lors d'un passage bref dans un village avec cet amant, le mari les a surpris et celui-ci s'est fait décapiter par l'ours. Et ainsi, la mère de Limette n'a plus jamais voulu revoir d'ours et ne veut plus jamais entendre parler d'ours. Donc forcément, c'est compliqué vis-à-vis de sa fille.
Et puis c'est encore plus compliqué dans le roman quand sa fille lui annonce qu'elle souhaite se marier avec cet ours.
Oui, en effet. Et vivre toute sa vie avec lui.
Là, on vous laissera quand même le soin de découvrir. Et puis donc nous avons Limette, ce jeune homme qui va donc recevoir la bague de l'ancien guerrier Mémé, comme on dit même. Mémé, c'est vraiment un drôle de prénom. À vous de faire le choix. Donc ce Mémé est un ancien vaillant guerrier, vraiment quelqu'un de louable par ses exploits durant la Grande Guerre où il y avait également la salamandre qui est intervenue. Il est devenu par contre aujourd'hui un homme alcoolique malheureusement. Il erre dans la forêt sans vraiment trop de but. Il boit. Il a découvert les plaisirs du vin qui viennent du village. Et donc forcément, bah, il s'enferme là-dedans. Mais il se moque quand même de Limet, qui naïvement pense qu'avec cette bague qu'il lui a donnée, il va pouvoir trouver la salamandre. Et voilà.
Oui, c'est effectivement son rêve. Et d'ailleurs, c'est la première quête qu'on retrouve dans ce livre. C'est Limet qui parcourt la forêt en essayant de trouver la salamandre avec cette bague.
Et il n'est pas seul. Oui. Il est accompagné d'un animal de compagnie, Dint. Alors, c'est un serpent. Un petit serpent. Royal. Voilà. Qui va l'accompagner, qui pourrait... On pourrait presque le comparer à un chien. Ça me fait penser à ça.
Ça reste son meilleur ami. Et je me suis trompé, c'est pas une couleuvre royale, c'est une vipère royale. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ça.
Je ne sais plus.
Mais oui, c'est son meilleur ami. Enfin, sa meilleure amie plutôt. Et il est aussi accompagné d'un ami qui lui est humain également.
Ouais, c'est vrai.
Qui s'appelle Partel.
Partel.
Qui deviendra Pitrus plus tard dans le livre. Alors, il faudra qu'on se mette d'accord sur quel nom nous utiliserons quand on parlera de lui.
On peut dire les deux, ce sera aux auditeurs après de faire le choix. Donc, on se rend compte quand même que avec Ince, l'Asie quand même paraît plus simple, parce que plusieurs fois, il va même aller dormir dans les terriers des serpents. Il parle avec lui comme si c'était vraiment un très bon ami. On en oublie complètement finalement que c'est un serpent.
Exactement. Totalement. Toutes les rencontres qu'on peut avoir, que ce soit avec Ince, sa famille, les serpents, tout le monde. En fait, il y a tout un monde. On découvre aussi le monde d'un serpent, comment il réfléchit. Et puis, en effet, comme dans la vraie vie, on ne parle pas aux serpents, on ne sait pas ce qu'ils pensent, eh bien, il y a quand même quelques rapprochements qui sont faits là-dessus. Et ils sont assez solitaires. Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas se salir? Parce qu'ils adorent leur belle peau. Et un serpent, si on lui marche dessus, si on lui met de la poussière dessus, il ne va pas apprécier. Donc c'est issu de petites croyances et un petit côté humoristique, je trouve, là-dessus, qui rend ce monde, justement la croisée des mondes, très, très intéressant.
Quand même beaucoup d'humour dans ce texte.
Oui, beaucoup.
On aura l'occasion d'y revenir. On va un peu avancer dans le texte et on va vous divulguer ne serait-ce qu'une petite chose. Il faut savoir que l'oncle de Limet va mourir. Je ne peux pas trop vous en dire non plus comment ni pourquoi. Et il y a une réflexion qui vient à la page 174 de Limet, dans laquelle il dit « C'est étrange que la langue des serpents soit tombée dans l'oubli, mais que la croyance en des génies demeure. La sottise est plus forte que la sagesse, la bêtise est coriace, comme une racine ancrée dans ce sol que les hommes foulaient jadis. » Alors, ce qu'il faut également préciser, c'est que dans cette forêt où cette tribu vit, il y a énormément de croyances, de sages, de mages. On parle du bois sacré, où il ne faut pas déranger...
Le gardien de ces lieux.
Sinon, nous sommes punis, le lac risque de déborder. Il y a toute une raillerie autour de ça, tout au long du roman.
Des génies, des Odines.
Voilà.
Par Ulgas, le père du bois sacré.
Ouais, c'est
ça. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
Il paraît vraiment comme un vieux fou, d'ailleurs, celui-là.
Oui, tout à fait. Il est complètement obnubilé par ses génies, ses Odines, à faire des sacrifices pour que les arbres poussent droit, pour que l'eau ne déborde pas dans les lacs, que la rivière, pareil, ne se mette pas à s'emballer, que personne ne se noie dedans, ne meure, etc.
Et c'est quand même des croyances qui persistent. Et je me suis demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien entre ces croyances et les croyances qu'il y avait à l'époque au Moyen-Âge, qui ont perduré d'ailleurs parfois à travers les siècles, comme par exemple les démons ou le fait que la Terre soit plate?
Ben, en effet, y a même beaucoup de croyances dans ce livre, que ça soit justement au niveau des génies, mais de la langue des serpents, qui est, en ma foi, par rapport aux génies, plus utile, mais que celle-ci tombe dans l'oubli, comme on vient de le voir dans ce court passage, mais aussi de l'aspect des religions, qui est aussi très présente dans ce livre. Alors ici, c'est la religion chrétienne avec les monastères, sa seigneurie, tout ça.
On parle même du pape, d'ailleurs, à un moment donné.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En effet.
Un peu loin d'Estonie, quand même.
Oui. mais oui, il y a beaucoup de croyances. Et pourquoi est-ce que certaines restent sur le long terme et on s'en souvient, alors que d'autres s'éteignent. Et je pense que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'auteur joue dessus. Il y a beaucoup d'éléments un petit peu réels, un petit peu, sur lesquels on peut se rapporter, alors que d'autres sont liés au fantastique, mais en fait, je pense que ça vient d'une réflexion, comme c'est estonien, peut-être qu'il y a une partie de culture que nous ne connaissons pas et sur laquelle ces croyances sont basées, et ce texte fantastique est basé aussi.
Je me suis demandé si, avec notre regard beaucoup plus moderne d'Européens en 2023, maintenant que tout va plus vite, tellement plus vite, par Internet, par les réseaux sociaux, et qu'on voit surtout les fausses informations circuler encore plus vite, voire même parfois des croyances que j'aimerais qualifier de bas étage, sur des rumeurs, des choses qui sont démenties, est-ce qu'on ne pourrait pas justement en creux faire une critique avec ce roman de notre propre société sur ces croyances ou ces rumeurs, même si elles sont assez éphémères finalement, qui restent, qui perdurent et que des millions de personnes peuvent croire d'un seul coup?
Non, c'est vrai, les rumeurs vont vite, que ce soit donc dans ce livre les rumeurs des personnes qui partent, ceux qui veulent rester, ceux qui y sont fermement opposés à cette migration, tout comme les rumeurs qui vont aller dans le village par rapport aux personnes qui vivent encore dans la forêt, alors que la majorité de ceux-ci, que ce soit de la génération d'avant ou pour certains quelques mois auparavant, etc., renient totalement leur identité pour se fondre dans la masse et dans les croyances du jour qui sont pour eux le monastériat, la vie de paysan, toute la seigneurie, etc. C'est quelque chose qui happe une société, qui happe une population. Et effectivement, ces croyances bonnes ou mauvaises, pour telle ou telle raison, est-ce qu'elles dureront?
Tu nous parlais de religion, on va y venir justement, parce que c'est vrai que c'est quand même un pilier important de ce texte, avec le catholicisme. Il va apparaître, ce sujet de la religion, comme une mode, quelque chose de nouveau, qui va faire rupture entre les anciens et les jeunes, donc les anciennes générations, comme tu le disais, et les nouvelles. Ces jeunes générations qui vont donc devenir des curés ou des bonnes sœurs, qui vont prêcher de partout la bonne parole et donc en creux forcément oublier la langue des serpents et toutes les coutumes jusqu'alors. Il y a une dualité déjà entre ce qu'on pourrait appeler les païens, les anciennes croyances et donc les nouvelles avec le catholicisme.
Bien sûr, mais pareil, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans ce livre. Comme on le disait, il y a trois grandes idées, la langue des serpents qui est païenne, les génies qui restent quelque chose de païen et le catholicisme. Et d'ailleurs, on voit en parlant avec des gens du village au travers de ce livre, que les villageois sont plus à même à croire en les génies, en les loups-garous, en ces choses-là, qui sont entre guillemets plus proches de nous qu'une possible langue des serpents, qui est, elle, rattachée immédiatement au diable.
Et on ne parle pas aux serpents.
Alors que, pourtant, les génies, les loups-garous, comme je le disais, sont en soi tout à fait extraordinaires et aussi obscurs que les serpents, mais ceux-ci, justement, ont plutôt un aspect attrayant vis-à-vis de certains villageois, etc., qui ont toujours, comme dans les sociétés modernes, une envie de frissons et de... et d'interdit.
Waouh, ça c'était beau, de frissons et d'interdit. J'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment fait rire. Il y a eu 2-3 passages qui m'ont fait rire, parce que c'est quand même assez comique comme texte. Des fois, la tournure de phrase, le langage employé,
c'est vrai.
C'est assez cru, des fois d'ailleurs aussi.
Bien sûr.
Quelques moments, bon, on ne dira pas qu'il a déféqué, mais vous m'avez compris. Et j'ai beaucoup aimé à la page 283, pour diverses raisons, dont un petit groupe nominal. Ce jeune homme qui est curé et qui fait la morale à son père et à tous les voisins, et également donc à Limette qui est en face de lui parce que son parcours, son aventure le mène jusque là. Et donc ce jeune curé, en parlant de la religion, de cette nouveauté, va lui dire ceci: bien sûr que c'est le Christ, c'est l'idole des jeunes et mon idole à moi aussi. De telles mélodies sont celles qu'entonnent les anges au paradis et les cardinaux en la sainte ville de Rome. Pourquoi devrais-je m'abstenir de les chanter si tout le monde, chrétien, les entonne ? Alors, on est vraiment dans la religion qui débarque. Les chants, ce sont tous les chants, les psaumes, et encore d'autres qui sont chantés dans les couvents. Et puis je me suis demandé, face à ce jeune complètement omnibulé par la religion, castra, oui c'est vrai, il faut le préciser, est-ce que cela pourrait nous dire que la jeunesse est gage de qualité et d'innovation, de rupture par rapport à l'ancien, et avec ce que cela peut apporter dans la modernité, par exemple la moisson, voire même peut-être la boisson également.
C'est vrai qu'il y a une grosse rupture entre l'ancien, enfin là elle est très flagrante dans le livre qu'on voit, avec donc l'évolution des mœurs, l'immigration, le nouveau mode de vie, le côté attrayant, le côté nouveau que ressentent les jeunes et les moins jeunes, les parents également. C'est vrai qu'il y a une grosse rupture et vis-à-vis de notre société actuelle, on voit bien que là, sur quelques générations, il y a une évolution technologique, des mœurs, sur tous les domaines qui évoluent. Alors, est-ce que c'est une rupture nette, franche de l'ancien temps et du nouveau temps, ou est-ce que c'est plutôt une évolution de certains mœurs et justement garder la base et le corps d'anciens mœurs et d'anciennes croyances pour les faire évoluer, les remettre au goût du jour afin que celles-ci puissent perdurer dans le temps.
Peut-être que l'évolution dont tu parles, ça pourrait se faire sur la religion. Il passe des formes païennes via le christianisme après. Par contre, une rupture se fait peut-être au niveau de la technicité. Quand ils chassent, par exemple, ils sont principalement des chasseurs quand ils sont dans la forêt. Une fois qu'ils arrivent dans le village, ce sont des agriculteurs.
Bien sûr.
Ils passent du couteau à la faucille. Alors, c'est tranchant, bien sûr, mais bon.
Ça ne sert pas à la même chose.
Voilà.
C'est sûr que la rupture est plus nette. Après, je parlais justement d'une rupture douce vis-à-vis justement des croyances, des génies. Il y a quand même une forme d'imaginaire et de croyances qui restent malgré tout, même dans le côté de la chrétienté, etc. Je reviens toujours sur le même exemple, mais les loups-garous, c'est quelque chose qui est évoqué plusieurs fois dans le texte plus tard, mais c'est une croyance qui est apportée d'ailleurs même par les villageois, et pas du tout par l'Imet ou par d'autres personnes du village,
de la forêt.
De la tribu, voilà, du village dans la forêt. Et je trouve que justement, il y a les deux formes de mouvement. Et je pense que c'est très bien amené, puisqu'on peut, même au fil des pages, en le relisant, on peut même se poser plus de questions sur qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est du côté estonien. Qu'est-ce qui a amené les personnages à migrer, les envies de renouveau, d'innovation,
qu'est-ce qui serait pour toi l'un des motifs
d'envie d'innovation? Alors forcément, il y a toujours le côté de la nouveauté qui attire. Il y a les jeunes, comme on le dit au début du texte, en fait, il n'y a quasiment plus de jeunes dans la forêt. Le monde, oui, vas-y,
par exemple, tu me parles de nouveauté vis-à-vis de la jeunesse, mais quand Limette et ses amis vont chercher le fameux pain, justement,
oui. Mais c'est à ça que
il y a énormément d'intérêt,
bien sûr.
Mais pour autant, dès qu'ils l'ont consommé, il y a du dégoût absolu. Et ils reviennent presque de facto, j'ai envie de dire, au mets que font sa maman d'ailleurs,
bien sûr. Chevreuil. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que le goût est moins bon parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est le fait de venir avec ses amis, essayer quelque chose d'interdit dans la forêt, aller au village, goûter à quelque chose, apprendre des nouvelles choses. C'est comme quand on amène un enfant pour la première fois au bac à sable ou dans un musée. Ils ont des yeux ronds à regarder tout, à poser des questions, à être émerveillés. Et c'est un peu ça, en fait, le nouveau monde que le village offre à ces personnes de la forêt. Et d'ailleurs, quand ceux-ci reviendront plus tard, l'un, l'autre et d'autres personnes, eh bien, les attraits ne seront pas les mêmes, les raisons ne seront pas les mêmes, puisqu'on voit le jeune garçon évoluer, grandir, vieillir. Pareil pour ses homologues, que ce soit le serpent ou le fameux ami humain Partel. Et effectivement, on voit que les prochaines fois que l'on voit le village au fil du texte, eh bien la vision, que ce soit d'ailleurs également de la forêt, change. Elle évolue, ouais, avec le temps. Et c'est ce que je disais, les attraits ne sont pas les mêmes. Donc je trouve que c'est quelque chose de très subjectif, et d'ailleurs relatif à l'âge, parce que je pense que si cette évolution est montrée graduellement avec dans l'avancée du récit, c'est aussi lié à l'âge.
Et on le voit aussi d'ailleurs avec l'écriture, qui change tout au long du texte. On passe vraiment du petit enfant qui découvre la bague à l'adolescent qui d'un coup s'intéresse aux filles, et puis d'un coup il devient beaucoup plus adulte, il part à l'aventure, c'est la guerre également qui le rattrape parfois.
Bien sûr.
C'est quand même parfois assez sombre, non ?
C'est à certains moments, c'est tout de même, sombre, violent.
On en revient quand même, comme tu le disais, à décapiter des gens.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
On se combat contre des louves.
Il y a même des passages qui sont très violents, remplis de barbarie, avec des scènes décrites assez troublantes, notamment pour un bon passage du livre. Il y a aussi beaucoup de tristesse pour pallier avec l'émerveillement du début. C'est un roman complet au niveau des émotions, on ressent énormément de choses. Vraiment de l'admiration, du merveilleux, de la joie, mais autant de tristesse, de désolation, de terreur que peuvent, et de rage que peuvent ressentir les personnages.
Est-ce que Richard Wagner serait une bonne idée pour pouvoir illustrer notre propos ?
Je pense qu'en effet, cette musique serait vraiment adaptée par rapport au livre qu'on a et certains passages, notamment des passages un peu plus tumultueux que notre personnage principal rencontrera au cours de cette histoire.
Le vaisseau fantôme de Richard Wagner, c'est ce qu'on vous propose. Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants, avec mon invité Thomas, qui est toujours là.
Toujours.
Et nous allons donc reprendre notre lecture d'Andrus Kivirak, L'homme qui savait la langue des serpents, paru en 2007 aux éditions Le Tripode. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi Wagner, Richard Wagner, pour pouvoir illustrer notre propos ?
Eh bien, comme dit précédemment, je trouve vraiment que la puissance du départ de la musique va très bien avec l'idée que certains sentiments puissants arrivent.
On pourrait faire un très beau lien d'ailleurs avec le passage de l'Exode de Limet et de I. Quand ils partent, ils sont pourchassés par des louves qui ne répondent plus à la langue des serpents parce qu'ils ont les oreilles bouchées de cire. À cause du fameux mage, celui qui est dans les forêts...
Ulugas.
Voilà. Ça, on pourrait presque se croire un peu chez les Vikings avec les noms quand même.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, ça reste, comme le disent les villageois, des païens.
Oui.
Et c'est pour ça que, d'ailleurs que certains changent de nom. Mais effectivement, ce sont des noms païens. Et qui de mieux que des païens dans le nord, à côté de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, que les Vikings, qui sont pas très loin quand même, pour aller envahir l'Estonie et donc être les premiers êtres ici, donc dans ces forêts.
C'est vrai. On va revenir sur... tu parlais de modernisation des noms, des changements de noms. On va revenir là-dessus avec l'ami de Limet, le fameux Partel, qui est quand même un des personnages secondaires centraux. Je trouve qu'il occupe une place importante, bien qu'il s'éclipse après au bout d'un moment. Il va quitter la forêt donc pour le village, ça on ne l'apprend pas, avec sa famille, d'où le changement de nom qui deviendra Petrus, dû à la christianisation, et donc parce que quand il rejoint le village, on veut gommer à tout prix les esprits et les pensées païennes. Ça, c'est vraiment en lien avec l'histoire. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs, de se souvenir aussi que ça a été ça, lorsque la christianisation a commencé, de construire les églises par-dessus les temples païens. Tous ces changements-là ont vraiment existé et je trouvais que ça faisait un bel écho avec l'histoire.
C'est vrai. Et puis, et là d'ailleurs, on voit que justement ceux de la forêt veulent à tout prix se fondre dans le moule et veulent être bien vus et avoir l'air de personnes civilisées qui sont travailleurs, dévouées envers le seigneur local et donc qui recherchent l'amour de Dieu et potentiellement, puisque une personne du village a été déjà allée à Rome et a pu voir un ancien
le
pape. Le père Johannes, qui est l'homme du village, d'ailleurs le maire également, si on peut appeler ça maire.
Le chef du village,
plutôt, c'est plus approprié.
Bon, revenons alors à Pétrus. Évidemment, je me suis encore posé une question, comme d'habitude, et je me suis demandé si, malgré les changements, l'amitié qu'il y a entre Pétrus ou Partel et Limette, sans bien sûr divulgâcher, je devais faire les gros yeux, attention, l'amitié pouvait-elle transcender le temps et ces mêmes changements pour de nouveau réunir les deux amis? Du fait que on voit, Limette cherche à aller au village, parce que Partel, lui avait dit « je reviendrai te voir ». Il attend de longues semaines et puis il n'est jamais venu.
Ouais, même des mois, je crois.
On pourrait presque nous faire penser à Joe Dassin, tiens. Je suis venu, j'ai attendu, mais je n'ai jamais venu. Limette le pense et s'attendait vraiment, en revoyant son ami au village, que finalement, ils allaient reprendre la discussion comme ils s'étaient quittés hier, et ça n'est pas vraiment le cas.
Non, en effet, il va essayer de venir plusieurs fois aux abords de la forêt pour scruter les terres en friche et essayer de voir son vieil ami, son bon ami. Et que celui-ci, une fois s'être revu, n'attend qu'une chose, c'est que Limette le rejoigne au village pour commencer une vie à deux, une vie au village
de voisins,
en tant qu'amis, l'un à côté de l'autre dans ce village, mais sans rien divulguer, cette amitié, et d'ailleurs le rôle, une fois que Pétrus est parti de la forêt, occupe une place beaucoup moins importante, et les discussions qu'ils auront donc au fil du temps, sont comme de plus en plus des personnes éloignées.
Distantes,
oui. Ouais. Deux personnes très distantes, avec une évolution des caractères de chacun d'eux. Et d'ailleurs, Limette qui ressemblera de plus en plus au caractère de son oncle.
Il le porte aussi très haut, son Bien oncle. C'est son père, hein, finalement. C'est une figure paternelle, en tout cas.
Bien sûr, puisque il n'a pas de père.
Ouais.
Donc c'est la seule figure paternelle qu'il aura sur une bonne partie du livre. Et forcément, ses croyances déteignent sur lui.
Et son oncle, d'ailleurs, qui lui a appris la langue des serpents, cette fameuse langue. Alors, on parlait de mots, de sifflements. C'est plutôt des sifflements, finalement.
Bien sûr. C'est pour ça qu'au début, l'oreille humaine a du mal à les entendre et qu'on n'arrive pas à siffler comme les serpents peuvent le faire. Et d'ailleurs, c'est bien décrit au niveau de l'apprentissage de la langue des serpents par son oncle, qui d'ailleurs met un point d'honneur à ce qu'il siffle parfaitement.
Ah oui, il passe beaucoup de temps à apprendre.
Ouais, avec notamment des subtilités dans cette langue que nous ne pouvons percevoir, mais qui sont très importantes. Et d'ailleurs, il se verra félicité de ses efforts dans la langue des serpents par les gens qu'il rencontrera au cours de son aventure. Mais tout cela est grâce à son oncle Vautelé. Enfin, moi, je dis Vautelé, mais...
Oui, on peut le dire comme on veut, finalement.
Vautel, tu disais.
Vautel ou Vautelé. Enfin, c'est assez étrange.
J'aime bien Vautelé. Vautelé, je trouve ça...
Les prénoms sont quand même assez beaux au niveau des lettres. On peut vraiment avoir 14 prononciations différentes.
C'est vrai.
Et pour en revenir justement à son oncle et à cet apprentissage, on apprend, page 74, j'aime bien citer les pages, on apprend qu'il y a différents moyens de siffler, différentes façons de siffler, comme s'il y avait dans une langue différentes façons de parler, comme si ce serait finalement des patois.
Différentes façons de parler, où on peut aussi voir ça comme un langage soutenu, un langage familier.
Voilà. Et donc on le voit, je recherche le mot, cette façon de parler encore différente de Pyrrhée et Raac.
Oui, c'est vrai, voilà. Les anthropolithèques.
Voilà, et eux, ils ont une façon de parler qui s'appelle l'anthropopithèque. Alors, ah, c'est voilà. Un mot qui n'existe pas. Et je me suis demandé si finalement ce langage du sifflement, la langue du serpent, n'était pas aussi opposé au latin. Là où j'aimerais m'expliquer, c'est que le latin, finalement, il n'y a que les hommes d'église qui l'emploient. Pour les personnes qui viennent assister à une messe ou à des grandes cérémonies, le latin, à l'époque, en tout cas au Moyen-Âge, n'était pas encore appris et connu de tous, comme l'était finalement la langue des serpents.
Je pense, alors dans ce récit, pas forcément, puisqu'on entend aussi parler, donc les gens du village sont en admiration devant le latin, et certains parlent latin, notamment celui dont on avait parlé, qui...
Le jeune prêtre.
Le jeune castra,
voilà.
Qui chante à son père, alors que celui-ci ne veut qu'une chose, c'est qu'il reste païen et qu'il reprenne l'affaire familiale.
Et son prénom païen, finalement, oui, d'origine.
Bien sûr, puisqu'il ne supporte pas de l'appeler par son nouveau nom. Mais pour en revenir au côté latin, je pense que nous, en tant que lecteurs, on peut faire justement cette transition au niveau des langues, ou des langues mortes en règle générale, sûrement. Mais je ne pense pas que l'auteur ait forcément voulu le faire, puisque justement on a déjà le latin et que les villageois sont en admiration devant les chants latins, devant les monastères, etc. Comme d'ailleurs les personnes l'étaient au Moyen-Âge. Puisque ça a toujours été le côté évangile pur des chants, en fait, tout simplement.
On a parlé de la fameuse langue des serpents avec différents moyens de parler. On a parlé aussi des animaux imaginés, une salamandre dévastatrice, immense, qui vole. On a parlé de cette langue des serpents qui permet de communiquer avec les animaux, leur parler, les rassurer. On le voit avec Limette et son ami Ince, le fameux serpent, mais on voit aussi d'autres animaux, un pou géant, un poisson immense à barbe. On pense au départ que ce sont des algues.
Oui, c'est une baleine.
Ah non, c'est un poisson géant, je suis navré de te le dire, mon cher ami.
Ah bon, c'est un poisson. Pour moi, c'était justement une baleine.
Ah non. Bon, enfin bon, vous avez compris, en tout cas, des animaux immenses qui ont un pou géant. Bon, c'est assez inédit à voir. Mais d'un autre côté, on nous parle aussi d'une vie encore avant ces périodes où cette culture-là de la langue du serpent existait, où justement les animaux étaient déjà décuplés, immenses, et là ce sont finalement à chaque fois les derniers.
Oui.
Il y a une obsession autour du dernier.
C'est d'ailleurs qui est bien rappelé, voilà. Tout au long du texte.
Limette est le dernier jeune homme, dernier homme de la famille, dernier jeune homme à savoir la langue des serpents, dernier jeune homme à rester dans la forêt, et il croit tout au long du voyage les derniers.
Le dernier
géants.
À avoir vu le poisson plus multicentenaire, voilà. Quand il vient reprendre sa respiration, et c'est pour ça que ça me fait penser à un dauphin ou une baleine, c'est pour ça que je pensais à ça, parce que avec le côté barbe en dessous, dans mon imaginaire, je voyais une baleine. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un païen, il sait pas ce que c'est une baleine ? Est-ce que c'est au final vraiment autre chose ?
Ce serait une bonne mise en abîme, tiens.
Oui, parce que c'est pareil. Pourquoi est-ce que les chevaliers, ils les appellent les hommes de fer ? Puisque on a une...
Ah, il y a une ignorance complète bien sûr, des métaux.
On voit ce récit à travers un païen qui vit dans la forêt, qui s'appelle Limette. Donc on est sujet, nous, à interprétation vis-à-vis de nos connaissances. Mais c'est vrai qu'il y a quelques réflexions à avoir.
Et donc, du coup, pour continuer sur ces fameux animaux immenses qui peuplent d'ailleurs tout le récit, on a les louves, les serpents aussi, mais également les animaux fantastiques, comme on a pu le dire à l'instant, je me suis quand même demandé, en creux, une fois de plus, si ce texte n'était pas aussi une ode au monde animal qui n'est plus vraiment regardé. J'ai eu ce ressentiment parce que les hommes de fer, les fameux chevaliers, sont beaucoup plus attirés par la boisson et par la guerre que par ce qui se passe autour. Tout comme cette nouvelle jeunesse qui part dans les églises. Il y a vraiment un désintérêt profond, on le voit avec le village comparé à la forêt, où il y a vraiment cette envie d'être avec la nature. On le voit aussi quand ils chassent, il y a une longue scène d'ailleurs où Limette fait la comparaison entre la chasse des hommes du village et la chasse de la forêt.
Bien sûr.
Il y a plus de barbarie, voilà. Ouais. De par cette langue du serpent, est-ce que ce texte n'est pas aussi une façon de nous dire, regardez les animaux qui sont autour de nous ?
Bien sûr, mais je pense que ça appuie le contraste des deux vies, des deux modes de vie, puisque on voit les personnes vivant dans la forêt se dorloter au soleil, se reposer, et quand ils ont faim, ils mangent un morceau d'écorce, ils mangent ceci, ils appellent un cerf ou un chevreuil, ils le tuent, ils le cuisinent, ils le mangent. Pas de soucis d'horaire, de peur. La langue des serpents les protège, leur permet de se nourrir. Le soleil et les saisons apportent le reste, alors que le village n'est que travail, labeur et répétition. C'est un mode de vie que nous connaissons et sur lequel on peut se rapporter forcément, puisque c'est ce sur quoi nous sommes basés. Mais l'aspect justement de la différence entre la chasse et le côté facilité, parce qu'il y a vraiment une différence entre la facilité de chasser pour les personnes de la forêt comparé à la difficulté. D'ailleurs, il rit et il raille les chevaliers et les seigneurs qui chassent en épuisant la bête. Ils trouvent ça d'une cruauté horrible, alors que eux, pour tuer, appellent par le mot des serpents un brave cerf et l'égorgent tout simplement pour le tuer. Et ils trouvent ça noble. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui pourrait être critiqué.
Surtout du fait qu'il connaisse la langue des serpents, il entend les souffrances de l'animal qui est chassé.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qui appelle et qui demande à être tué. Puisque c'est épuiser et mordre ou ne pas tuer d'un coup net ces pauvres bêtes est très compliqué à encaisser pour l'imette. Et je suppose pour toutes les personnes de la forêt, mais voilà.
Je me suis demandé si avec la fin de la langue des serpents, il n'y avait pas aussi la disparition, mais beaucoup plus généralement, même aujourd'hui, de la culture.
Alors, je pense que ça revient aussi à l'idée tout à l'heure d'évolution des mœurs, ou justement de rupture des mœurs, tout simplement. Je pense que la culture, il y a certaines formes ou certains pans de culture qui sont oubliés, que ce soit à travers les livres, qui malheureusement certaines bibliothèques ont pu à travers le temps prendre feu avec des pertes de connaissances monstrueuses, que ce soit avec les différentes langues orales, donc parlées oralement, ou les histoires racontées oralement à l'époque qui ont été en majeure partie oubliées, eh bien il y a effectivement des pertes de connaissances, de culture, à défaut d'autres qui, elles, resteront. Pour x ou y raison, que ça soit voulu ou par la nature, je pense qu'en effet, il y a des pertes de savoir.
Pourtant, ce texte, ça pourrait s'apparenter à un conte également. On nous parle d'un roman, mais finalement, alors déjà, nous avons l'emploi du jeu, donc pourrait dire que les contes n'ont jamais en jeu. Oui, peut-être, mais peut-être que ça pourrait s'apparenter à un vieillard qui raconte un conte, mais le conte qu'il a vécu lui-même. Et on voit du coup cette évolution qui va grandir, comme s'il nous livrait finalement sa vie.
C'est ça, mais c'est exactement ça, il nous livre sa vie, et si on doit lier ça au conte, on doit retrouver une morale à ce roman. Dans ce roman, la morale serait peut-être le fait de réfléchir sur l'évolution de l'homme, ses différentes croyances, sur la nouveauté, sur est-ce qu'il faut se faire confiance et rester une personne intègre, ou est-ce qu'il vaut mieux suivre les modes, suivre le mouvement ? Est-ce que c'est mieux, de terminer seul avec ses connaissances, sa culture et sa raison d'être, plutôt que... Au bout d'un moment, que ce soit à cause de l'âge ou à cause des mœurs, d'abandonner tout ça et d'aller de l'avant. Il y a peut-être une forme de réflexion qui est recherchée.
Et qu'on peut encore se poser aujourd'hui, d'ailleurs.
Je pense, oui.
Ainsi va la littérature. Et se termine notre voyage dans les forêts estoniennes avec le roman d'Andrus Kivirak, L'homme qui parlait la langue des serpents, publié en mai 2015, cette fois-ci, aux éditions Le Tripode. Un magnifique roman imaginaire pétri de poésie, de vie, d'aventure et même de bravoure. Un grand merci à toi, Thomas, de t'être prêté au jeu de la librairie des étudiants, d'être venu aujourd'hui, nous avoir fait découvrir ce beau roman et surtout d'avoir ouvert l'éventail des horizons de littérature.
Eh bien, merci à toi, merci beaucoup de m'avoir invité. Je tenais vraiment à te partager cette lecture que j'ai beaucoup appréciée, que j'avais lue il y a déjà un petit bout de temps.
Donc à découvrir impérativement en librairie indépendante, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, en parlant de ces librairies, je vous propose d'aller à Lyon. Pour que vous passiez dans le quartier de l'Opéra, arrêtez-vous à la librairie du Bal des Ardents, à la rue Neuve, une ancienne librairie qui n'a pas perdu du tout de son charme avec son entrée unique et singulière, et comme toujours, une équipe très accueillante. C'est là-bas que j'ai d'ailleurs acheté notre livre du jour. La librairie du Bal des Ardents, rue Neuve à Lyon, c'est à découvrir. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, pour parler de la Première Guerre mondiale. Mais bien sûr, comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver la page Instagram de la librairie des étudiants, et vous pouvez retrouver cette chronique et toutes les précédentes sous forme de capsule auditive en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une semaine, une belle semaine, avec beaucoup d'imagination, car cela allège forcément votre quotidien. Le moyen d'y parvenir, en lisant, bien sûr. Je vous souhaite de belles lectures.